RMC, entre les poteaux,
Pierre Thévenet.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast hebdomadaire Entre les poteaux. Pendant la période estivale, on reste avec vous, on vous accompagne jusqu'au retour de votre équipe préférée. Même l'équipe de France est en vacances, nous on est là. On vous rappelle, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on sort un petit peu de l'actualité, on remonte dans le temps. Les poteaux vous présentent, argument à l'appui bien sûr, leur top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire. Attendez-vous à des arguments ou pas, à du débat, à de la subjectivité aussi, car les joueurs ne nous marquent pas tous de la même manière, bien sûr. Autour de moi, en studio aujourd'hui, les deux cadres de la cellule rugby, Wilfried Templier. Bonjour Wilfried.
Bonjour.
Et Julien Landry.
Salut messieurs.
Est-ce que vous êtes sûr de vos choix déjà ?
Non.
Non, pas du tout.
Non, c'est vrai. Toujours un petit...
Oui, mais là...
C'est subjectif.
Mais on s'est dit que vous n'étiez pas tout à fait assez spécialiste. Et du coup, on allait chercher en dernière minute...
Bah qui, alors, du coup ?
Cédric Emmons. Cédric Emmons, qui lui va nous apporter vraiment son expertise et qui a fait son top 10, mais il refuse de nous le donner. C'est full surprise, nous a-t-il dit. Salut Cédric.
Bonjour à tous. Mais les experts, c'est vous, hein, c'est pas moi. Moi, je suis juste là pour arbitrer, pour...
C'est bien voilà. Que tu sois lucide.
Oui, c'est bien. Bah, quand tu as affaire à des spécialistes, tu te mets en retrait. Hein.
Ça, c'est le Toulousain, vous voyez. Ça, c'est le Toulousain, en fait. Ça.
Bon, l'avantage, Cédric, c'est qu'il a quand même joué contre quelques-uns des joueurs que vous avez mis dans votre top 10.
Mon premier de mon classement, je n'ai pas joué contre.
Ah, intéressant, ça donne un indice déjà.
Est-ce que tu crois que ces joueurs-là se souviennent de Cédric?
Oui, je pense, évidemment.
Ah non, j'en ai croisé au demi-finale. J'ai dû changer physiquement.
Non, mais il y en a qui ont vu que ton numéro, peut-être aussi.
Ouais. Et les crampons orange qui s'éloignaient.
Du 11, c'est passé au 1. Du 11 au 1, qu'est-ce qui s'est passé?
Pour vous expliquer comment ça va se dérouler, j'ai en ma possession donc vos deux top 10, Wilfried et Julien. Cédric donnera son avis sur la question, bien sûr. Vous êtes d'accord sur certains points, vous allez sans doute vous écharper sur d'autres. Vous avez un seul joueur placé à la même position, hein, Julien et Wilfried. On vous invite en commentaire sur les réseaux sociaux, bien sûr, à donner votre avis en restant raisonnable. On le rappelle, tout ça ne sont que des avis personnels. Messieurs, avant de dérouler votre top 10, est-ce qu'il y a des joueurs que vous vouliez évoquer en mention honorable? Est-ce que tu as un joueur, Wilfried, que tu n'as pas pu faire rentrer dans ce top 10, mais que tu voulais évoquer?
Ouais, c'est Thierry Dussautoir.
Très bien.
Alors, je pense qu'il y en a peut-être, ils vont me dire, comment ça? Tu n'as pas mis Thierry Dussautoir?
On va s'arrêter tout de suite parce que ça va être dans le top 10 de Julien, donc on reparlera de Thierry Dussautoir juste après. Julien, est-ce qu'il y a des joueurs que tu voulais mettre qui ne sont peut-être pas dans le top 10?
Non, mais alors moi, je vous ai toujours dit qu'il y a les joueurs frissons qui m'ont fait, par exemple, Jason Robinson, l'arrière anglais. On ne peut pas le rentrer dans les 10 meilleurs, mais c'était un joueur extraordinaire de par déjà le style de jeu qu'on n'avait pas vu. Il était petit, il était râblé, il était tout musclé.
Électrique,
mais il allait à une vitesse incroyable. C'est sûrement moi, alors pas mes premiers souvenirs de match de rugby, mais je me rappelle de Jason Robinson quand il y avait l'Angleterre. En fait, j'aimais regarder l'Angleterre juste parce qu'il était là. Juste, j'aurais pu le citer. Il y a Jos van der Verstuizen, parce que cette Coupe du Monde 95 m'a marqué, le demi-mêlée de l'Afrique du Sud, dans cette capacité qu'il avait. Alors moi, j'aime le jeu d'avant, et c'était un neuf qui aimait l'être avec les avants. C'était le 9e avant de l'Afrique du Sud et j'adorais sa manière de jouer. Et toujours dans cette Coupe du Monde 95, si je devais en citer un dernier, j'adorais Christian Kullen, l'arrière des Blacks. On a moins parlé de lui parce que y avait Jonah Lumu, il y avait Andrew Mertens qui prenait toute la lumière. Mais Christian Kullen était un joueur incroyable en relance. Pour les gens qui ne connaissent pas Christian Kullen, les jeunes qui nous écoutent, vous tapez Christian Kullen, vous allez voir des essais de Kullen qui traversent le terrain tout seul. Il voit des trous, il accélère. Voilà, il y a des joueurs comme ça qui sont exceptionnels, qui m'ont fait rêver, mais qui étaient durs de faire entrer dans le top 10.
Cédric, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voulais évoquer, que tu ne peux pas faire entrer dans ton top 10, mais peut-être un joueur frisson qui, toi, t'a particulièrement marqué?
Bah, moi, je resterai sur Christian Kullen, je suis d'accord. C'est pour moi la référence de, pendant des années au poste d'arrière ailier, pour remonter les ballons. Il m'a donné envie de jouer au rugby par ses crochets. Ouais, c'est vraiment lui. Thierry Dussautoir, je suis partagé. Je suis vraiment partagé. Après, la vraie question, on va peut-être rentrer dans le débat de suite, mais la vraie question, c'est l'impact sur le rugby dans le jeu, à travers les titres.
Bien sûr.
Quand on regarde tout ça, Thierry Dussautoir a eu un impact sur le jeu, mais malheureusement, il n'a pas de titre mondial.
Dans ton équipe aussi, l'influence dans ton équipe.
Oui, exactement.
Moi, c'était pour ça. Et c'est vrai que quand tu as des champions du monde ou double champions du monde, c'est difficile. Et qui ont été actifs en finale, des fois, c'est difficile de les faire passer.
Tu évoquais Eben Etzebeth, par exemple, dans tes joueurs que tu aurais pu faire rentrer dans les 10.
Oui, mais Eben Etzebeth, parce que c'est quand même quelqu'un de primordial pour l'Afrique du Sud, mais c'est quelqu'un de devoir. Et que quand tu dis Christian Kullen, c'est pas du tout.
Ah, mais non.
Par rapport à Eben Etzebeth. Et je rajoute John Hills, capitaine de l'Australie, j'ai pas pu mettre dans mon. Et qui est arrivé. Que c'est un mec à deuxième ligne qui tapait des transformations en plus. Et on le regardait avec des grands yeux comme ça. C'était du jamais vu. Voilà, on l'appelait nobody, nobody's perfect. C'était ce qu'il disait en Australie. Et j'ai pas aussi, je le rajoute, mais je vais pouvoir peut-être me faire insulter, parce que Gregan n'est pas dans mon top 10.
On en reparlera de Gregan parce qu'il est dans un des top 10. On va démarrer ce top 10 justement.
Je veux juste rajouter Carlos Spencer.
Très bien.
Il m'a fait rêver avec les Blacks.
On fait une liste de 20 alors.
Voilà, c'est ça, c'était juste les gens du mal à faire rentrer, Cédric, mais il y en a tellement que j'aurais pu faire rentrer dans cette liste de 10.
À la fin, on reviendra, on refera un tour de table.
C'est là que j'ai un doute sur votre côté spécialiste. Parce que vous êtes côté tranchant, c'est. Il va falloir trancher.
On démarre ce top 10. Maintenant, va falloir trancher. Il y a deux propositions autour de la table. Là, je sens que vous avez fait parler votre petit cœur de français tous les deux, puisqu'on en parlait de Thierry Dussautoir. Julien, c'est ton dixième, Thierry Dussautoir, record de capitana en équipe de France, 5 fois champion de France, 3 fois avec Toulouse, 2 fois avec Biarritz, champion d'Europe aussi en 2010, Grand Chelem en 2010, finale de Coupe du Monde en 2011. Il a été élu meilleur joueur du monde, Thierry Dussautoir. Il y a ce match de 2007, ces 38 plaquages, Julien, contre la Nouvelle-Zélande, son surnom Dark Destroyer. C'est là, tu penses qu'il a vraiment pris de l'ampleur à l'international?
Je ne vais pas dévoiler tout, mais pour moi, ne pas être champion du monde, ça ne peut pas être un critère, parce que sinon, j'enlève une certaine personne déjà de mon classement, et je pense que Cédric, il pourrait peut-être l'enlever aussi. Non, mais alors oui, il n'est pas champion du monde, mais il avait un tel impact sur le jeu de l'équipe de France. Je me rappelle ce match de 2007 où il avait détruit à lui tout seul la Nouvelle-Zélande. C'est lui qui marque l'essai pour faire passer les Français devant. Il avait une telle influence, il était tellement propre. Quand il mettait les mains, tu savais que c'était déjà ballon gagné. Il avait une capacité à plaquer, à toujours bien se déplacer. Il était toujours dans les endroits où il fallait être, en fait. C'est la connaissance ultime du rugby, la connaissance parfaite de l'adversaire, la lecture idéale, savoir plaquer. Et puis après, c'était pas un capitaine qui parlait beaucoup, qui avait une voix.
Son leadership.
Mais tu savais que tu pouvais aller à la guerre avec lui. Je me rappelle cette flèche en 2011 où il est à la tête de l'équipe de France qui amène. Et tu sens qu'il retient tout le monde pour pas avancer, mais qu'il arrive à retenir les mecs derrière lui, quoi. Tu sens qu'il est dit non, vous restez en place et que les mecs, ils le suivent, quoi. Il dégageait quelque chose. Voilà, je trouve que c'était un joueur magnifique. Alors voilà, c'est pas Christian Cullen qui traversait, mais je suis toujours, moi, à répéter que le rugby, c'est pas que des gens qui traversent le terrain. Il faut toutes les qualités. Et aujourd'hui, Dussautoir, dans ce rôle qu'il pouvait avoir, il est incroyable.
Cédric, est-ce que tu penses que c'est nos yeux, après c'est subjectif, un top 10, mais c'est nos yeux de Français qui nous font mettre Thierry Dussautoir aussi haut, même si c'est un joueur exceptionnel, mais toi qui l'as bien connu, tu as du mal, tu le disais, à l'inclure dans un top 10 mondial?
Wilfried l'a mis en 10?
Non, Julien.
Et Wilfried, on sait
non, pas. Wilfried, on arrive après.
Ah d'accord. Moi, Dussautoir... Il lui manque un titre mondial. C'est malheureux à dire, mais il manque un titre mondial dans sa carrière qu'il aurait tant mérité. Je suis d'accord sur tout ce qu'on a dit, sur l'impact sur le jeu, sa capacité à influencer sur le jeu adverse, sur sa capacité à mener les hommes, mais pas tant dans le discours, mais par les actes. C'était un capitaine d'exemple. Moi, je ne le mets pas dans mon top 10. C'est avec un énorme regret. Mais il y a tellement de grands joueurs. C'est un crève-cœur de ne pas mettre Thierry Dussautoir. Mais pour ça, il manque peut-être une chose, c'est l'impact sur le jeu balle en main.
Ouais, j'allais dire côté offensif. Ouais.
Et Wilfried a pris un autre joueur qui n'est pas champion du monde puisqu'il est français. Donc à partir de là, il ne peut pas être champion du monde. Philippe Sella pour Wilfried, 111 matchs en bleu, qui a été meilleur centre du monde pendant un moment. Philippe Sella, premier joueur de l'histoire à 100 sélections internationales, finaliste de la Coupe du Monde 87, grand chelem cette année-là. Wilfried, c'est le choix du cœur, Philippe Sella.
Moi, c'est mon idole, Philippe ouais. Sella. Donc, non, mais c'est quelqu'un où tu parles de traverser
le terrain.
Donc
déjà, c'est pas objectif, tu vois.
Non, c'est pas ça. Tu parles de traverser le terrain. Quand tu parles de traverser le terrain, regardez les images de Philippe Sella, qui était un joueur extrêmement complet en plus. Terrible en défense, en intervalle, en vitesse, qui a une longévité incroyable, parce qu'il est il est de la Coupe du Monde 87, il est finaliste, mais il est aussi de la Coupe du Monde 95 en Afrique du Sud. C'est pour vous dire quand même comment il a duré au niveau et combien il a de tournois. Philippe Sella au palmarès, je ne sais pas si on va le chercher.
Je n'ai pas noté le nombre de tournois.
Mais voilà, et des grands chelems dans les années 80, il en a fait et c'est un monstre. C'était pour moi, et il a fini en plus, il a été en Angleterre finir sa carrière. Pour moi, c'est un monstre. C'est un monstre du rugby, Philippe Sella.
Cédric, ton avis sur Philippe Sella, et puis toi, tu peux nous dire qui tu as mis en dixième?
Alors, Alors, moi, je ne mets pas Philippe Sella parce que je ne sais pas pourquoi je ne le mets pas.
Parce que je t'ai convaincu, là, et là, tu as un doute.
Ouais, j'ai un doute. Tu m'as mis le doute. Tout à l'heure, tu m'as même fait des menaces quand on a préparé le podcast de dire il faut mettre Philippe Sella.
Il a un palmarès beaucoup plus moindre que Thierry Dussautoir, déjà.
Il a deux titres de champion de France
dans sa jeunesse.
Je ne sais pas si c'est mon regard d'enfant qui voyait Philippe Sella traverser le terrain, joueur propre, qui n'a pris qu'un seul carton jaune ou rouge.
Rouge au Canada, aux États-Unis, dans une tournée moisie.
Exactement. L'impact qu'il a eu sur le rugby français, sur le rugby mondial, cette capacité à jouer en se décalant avant la balle, gros défenseur, l'impact qu'il a eu sur son club, sa région, c'est dur. Moi, j'ai mis en dixième position Antoine Dupont.
Oh! Je trouvais que Wilfried et Julien l'ont mis un peu plus haut, mais je trouvais qu'ils l'avaient mis déjà bas. Mais du coup, ouais, Cédric, tu peux dire pourquoi si bas, Antoine
Dupont ?
Parce
qu'il n'a pas encore fini de marquer le rugby mondial.
Très bien.
Et les autres sont, tous les autres ont arrêté. Et je pense qu'au fil des années, Antoine Dupont va monter dans mon. Si je dois refaire un classement dans 4, 5 ans, je pense qu'il montera peut-être même dans les 3 premiers. Mais
ça va se jouer d'ici un an, Cédric, surtout.
D'ici un an, s'il soulève, il peut finir premier. Après, pourquoi dixième ? Parce que lui, il a révolutionné le poste de demi-mêlée, même s'il y a eu des grands.
Hein, c'est vrai.
Gregan, mais son impact, ses courses de soutien, à l'image de Thierry Dussautoir, quand il est sur le terrain, il est bon dans les actes, il est bon par l'exemplarité. Sa capacité à revenir sur deux blessures importantes du genou, toujours être focus, faire jouer les autres. Mais sa carrière n'est pas terminée, c'est pour ça que je le laisse en 10, mais avec un énorme espoir qui montera plus tard, mais on refera cette émission dans 5 ans.
Oui, on reviendra en plus sur Antoine Dupont, parce que vous l'avez mis plus haut, Wilfried et Julien. On passe à la 9e position. On a un Irlandais pour Wilfried Templier, Brian O'Driscoll, et on a un Australien, le premier Australien de Julien, l'Arkham. Il y aura un trio d'Australiens à venir pour Julien Landry. On commence avec toi, Wilfried. Brian O'Driscoll, capitaine de l'Irlande, 83 fois, 141 sélections internationales. Il a fait toute sa carrière au Leinster, 3 fois champion d'Europe. Deux tournois en 2009 et 2014, Lions britannique également. Le palmarès est un peu léger là aussi. Il y a évidemment pas de titre de champion du monde, mais ça a été la figure, le visage de l'équipe irlandaise des années.
Je pense que c'est le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe d'Irlande. Personnellement, on parle de Sexton. Non, moi je pense que c'est O'Driscoll. C'est aussi dans quelqu'un par sa vélocité, par sa technique, qui a marqué les matchs. Et c'est vrai qu'on essaye aussi de mettre un petit, enfin, de penser à chaque nation, et que pour moi, on peut pas.
O'Driscoll plutôt que Sexton, par exemple.
Bien sûr. Ouais. Donc on peut pas ne pas mettre un. Enfin, si on peut ne pas mettre un Irlandais, mais moi, il m'a fait rêver O'Driscoll. Il a surpris beaucoup de monde aussi. Hein, et dans les années début des années 2000, il avait une domination incroyable au milieu du terrain.
Julien est parti donc sur l'Arkham, 102 sélections avec l'Australie, charnière avec son partenaire George Gregan, dont on va reparler juste après. Champion du monde 99, finaliste de la Coupe du Monde en 2003. Au-delà de l'Arkham, pourquoi cette équipe d'Australie, cette charnière-là, comme ça on parle aussi un peu de Gregan, t'a autant marqué ?
Bah, déjà parce que 99, ils battent les Français en demi-finale de la Coupe du Monde, en finale de la Coupe du Monde, et que c'est l'Arkham Gregan. Je pense qu'il faut regarder les statistiques, mais je pense que c'est la charnière qui est la plus utilisée au niveau international. Je pense qu'ils ont tous les deux plus de 100 sélections, ils ont quasiment dû toutes les faire ensemble. Et puis l'Arkham, je sais pas, c'était incroyable, il avait des grandes échasses. Il était moche à voir des fois, Stéphane Larkham.
Une course chaloupée.
T'avais
un
l'impression
peu
qu'il était lent, t'sais, il tapait jamais au pied, il était lent, il avait son casque. Et puis d'un coup, il était capable de voir un trou, il accélérait, il allait vite, il sentait le rugby.
Il était lent ou il allait vite ?
Non mais c'était un faux lent.
Un faux rapide.
Ouais, ou un faux rapide, comme tu veux, Cédric.
Non, mais vrai
c'est vrai que quand tu le regardais des fois, tu disais mais il est pas beau ce joueur avec ses grandes échasses là. Mais je sais pas, il avait un truc qui se dégageait. Et puis je trouve que l'association avec George Gregan, que j'ai donc mis juste moi en numéro 8.
On va le dire, attends.
Si, parce que je vais associer les deux pour gagner du temps. Donc voilà, j'ai mis Gregan 8 et l'Arkham 9. Je trouve que cette charnière, ils sont champions du monde 99. Ils perdent la finale en 2003 contre l'Angleterre sur la Coupe du Monde en Australie. Ils ont gagné les Tri-Nations.
Et Gregan est champion de France de Pro D2.
Et Gregan est champion de France de Pro D2. Non, mais c'est encore une fois, moi je me réfère souvent à mes émotions et aux souvenirs. Et cette charnière-là m'a marqué parce que c'est les moments où, non pas que j'ai découvert le rugby, mais que je regardais. et Gregan Larkham, quand je les voyais, j'étais impressionné de la justesse qu'il y avait entre eux, du feeling qui pouvait se dégager entre eux, où ils pouvaient se jouer les yeux fermés. Sans sélection, une charnière, c'est beau quand même.
Monsieur Aymans, Odriscoll, Larkham, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, qu'est-ce que tu as mis en 9e?
Moi, Odriscoll est plus haut dans mon classement.
D'accord, bon, on y reviendra du coup.
Et Larkham n'est pas dans mon classement et j'ai mis Serge Blanco au moins.
D'accord.
Pourquoi Serge Blanco? Parce que c'est le joueur proté pour un arrière avec du pied, des relances, mais qui peut jouer à l'aile, peut influencer. Puis j'ai cet essai du bout du monde dans la tête, j'ai cette capacité à avoir toujours les rebonds. Alors, je veux bien entendre que c'est de la chance, mais au bout d'un moment, c'est de la technique. Il a porté la nation France pendant très longtemps par ses courses chaloupées. Il n'avait pas des crochets très violents, mais il avait des courses chaloupées. Pour moi, il doit être dans ce classement. Alors, vous allez me dire...
C'est un athlète.
C'est un véritable athlète. Alors, j'ai mis deux Français entre 10 et la 10e place et la 9e place.
Oui, c'est un top monde.
Oui, mais après, ça va changer, n'ayez pas peur. Mais je le vois là. Je le vois là parce que dans les années 80, c'est beau, il est beau à regarder jouer, c'est un athlète parfait.
C'est une star du rugby français à l'époque.
C'est une star. Il y a tout ça. Il y a tout ça dans ma façon de voir les choses.
On peut continuer à évoquer Serge Blanco parce que, pour ne pas trahir le secret, Julien, tu l'as mis 6e, Wilfried l'a mis 5e, donc il est plus haut pour vous dans vos classements. Wilfried, pourquoi Blanco si haut?
Parce que Hino, Prost, Noah, Blanco, en fait. Platini, donc pour star mondial. Il l'a dit, Serge Blanco. Plus athlétique que les autres à l'époque, des essais de 100 mètres, 80 mètres, essais de demi-finale en coin, aura sur ton sport, aura sur ton équipe, sur ton sport, dans ton pays. Voilà, pour tout ça, c'est Serge Blanco, magique, quoi, en fait.
Malgré un palmarès vierge.
Oui.
Mais aucun Brennus, titre de champion de France.
Six tournois destination, dont deux grands chelems, ce sont ses seuls titres majeurs.
Mais c'est vrai que, alors, des fois, le palmarès peut permettre de trancher, mais c'est vrai que Blanco, c'est fou de se dire qu'il n'est pas remporté un bouclier de Brennus. Pas champion du monde, moi. Aucun des Français l'est, mais voilà, je trouve que lui aussi, il a marqué son histoire. Et puis, c'est des époques où on voyait moins de matchs à la télé qu'aujourd'hui, et que du coup, il y a des images marquantes de Blanco. Cédric parlait cet essai de la demi-finale France-Australie, où il est en bout de ligne, il va le marquer. Ses relances, cette capacité, comme dit Cédric, où il avait les ballons qui lui tombaient toujours dessus.
Un peu à la Biel Biarré aujourd'hui, ouais,
c'est la première star du rugby française, voire même mondiale, et puis voilà, il dégageait quelque chose. Quoi.
Cédric, est-ce que c'est ce palmarès un peu maigre qui fait que tu ne le mets pas plus haut que la 9e place?
Quand on influence le rugby mondial, il faut gagner une Coupe du Monde. Ouais. Il faut avoir des titres. Vous l'avez dit, Serge Blanco est vierge de ce côté-là. Je l'ai mis là parce que, pour tout ce qu'on a dit, l'influence, mais il faut gagner une Coupe du Monde, il faut gagner un tournoi destination, il faut gagner son championnat. Et Serge Blanco, malheureusement, l'a pas fait.
Très bien, donc Brian Odriscoll en 9 pour Wilfried, Larkham pour Julien et donc Serge Blanco pour Cédric sur cette 9e place. En 8e, on a donc Gregan dont on a déjà parlé pour Julien. Wilfried, tu as pris un joueur beaucoup plus actuel qui joue toujours, Cheslin Colby. C'est dur toujours de mettre des joueurs en activité, mais Colby est double champion du monde.
Cet
homme... Cheslin Colby, je l'ai vu faire des choses que même tu avais un 4 d'ab énorme, Cédric. Hein.
Mais crochet intérieur, tu l'avais pas.
Le sien, je l'ai vu mettre des coups de taser aux défenseurs sans les toucher.
Ah, c'est sûr.
Les mecs, ils tombaient et le genou à l'intérieur, l'appui, il finit. Et puis il est double champion du monde, il a marqué en finale de Coupe du Monde, il défend, il contre Ramos sur une transformation. Mais il défend comme un chien, Cheslin Colby. Hein.
Est-ce que c'est le joueur qui t'a le plus impressionné au stade que tu as vu? Avec Antoine Dupont, peut-être?
Ouais, je pense, moi je vous le redis, il avait marqué, souvenez-vous, un match au Stadium entre Toulouse et Clermont, incroyable, 43, il marque un essai à l'entrée des 22 en effaçant 7 ou 8
points,
il met un drop de 50 mètres, oui. Comment vous pouvez pas mettre Cheslin Colby dans cette liste de 10?
Parce qu'il a contré Ramos.
Parce qu'il est sud-af.
Au bout d'un moment, il faut assumer tout le jeu.
Non, mais il est...
Moi, il y a cette action contre Basse, où, comme tu dis, il met des coups de taser aux deux défenseurs sur deux crochets intérieurs hyper rapides.
Et le défenseur se dit, il est où le défenseur? Il est au sol. il est par terre, agonisant.
Ça, il sur, est sur les crochets, il était quand même très proche de Christian Cullen. Il a ce côté électrique.
Ah, ouais, mais pas autant Cullen dans une cabine puissant. Téléphonique, en fait.
Cullen, il a un peu plus d'espace.
Sur 2 mètres carrés, même pas 2 mètres carrés. Et tchac, 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 voilà, ouais, il n'y a pas d'espace, vrai. Il le crée, en fait, Jason Colby.
Là où tu as raison, c'est qu'en plus de ça, d'être un joueur, parce qu'on l'a vu jouer en 10, on l'a vu jouer au centre, il a joué à l'aile, à l'arrière, mais c'était aussi un gros défenseur. Et on se souvient régulièrement de ses qualités offensives, mais défensivement, il était très, très solide.
Je pense que j'aurais pu le mettre plus haut, en fait, en vous disant tout ça.
Et toi, Cédric, qui...
Martin Johnson.
Moi. Martin Johnson. Explique-nous pourquoi.
Parce que beau, élégant, capitaine de l'Angleterre, il a tout le profil. C'est l'anglais parfait. Arrogant, port de tête hyper haut, grosse seconde ligne, fait dur mal. Au mal, compliqué à bouger.
Avec Dalloglio, ils étaient pas mal, les deux.
Ouais, et puis une emprise psychologique sur leur adversaire. Ouais. Que on ne peut que le mettre là. Moi, c'est l'avant qui m'a donné peut-être. Je dis bien peut-être.
Envie de jouer, devant. Non mais c'est vrai que j'ai une image de lui. Tu parles de ça en 2003, la finale en Australie. Il y a les hymnes. Et j'ai un truc qui m'avait marqué, une simple image. À la fin de l'hymne, en fait, il s'est détaché de la ligne anglaise. Il s'est retourné vers ses coéquipiers. Il a mis son index en avant et il a commencé à parler comme ça en mettant des coups d'index. Je fais waouh, le patron là. Il vient de parler à ses mecs. Ouais.
Cette mâchoire,
j'avais aimé savoir ce qu'il allait leur dire.
Cette mâchoire, ce sourire carnassier.
Le paquet d'avant en 2003, c'était des animaux.
Et puis c'est l'anglais, je vous le dis. Parfait. Parfait dans toute sa splendeur. Le fameux good game, il aurait pu l'inventer. Voilà.
Martin Johnson, donc, pour Cédric Aimance à cette 8e position. On continue d'avancer. En 7e, Wilfried avait mis Antoine Dupont. Donc, on en reparlera plus tard parce que Julien l'a mis plus haut et on l'a déjà évoqué avec Cédric, mais vous donnerez votre avis tous les deux un peu plus tard. Donc, 7e, Dupont pour Wilfried. Julien continue son idée de ne mettre que des Australiens dans son top 10. Et là, ça va faire débat parce que Wilfried, quand il a appris que Julien avait mis David Campese dans son top 10.
Très bien, bravo.
Wilfried n'était pas d'accord du tout.
C'est pour les cagoles.
Oh.
Non, mais alors, c'est marrant.
Les highlights.
Respect
pour Campese. J'ai mis David Campese aussi. Hein.
Très bien.
Non, mais c'est marrant parce que alors.
Champion du monde 91. Hein,
champion du monde 91. Ouais. Meilleur marqueur d'essai avec plus de 60 essais.
Avec le tic-tac de Colby un peu
c'est ça.
À l'époque.
Et
pas de loi.
Non, ce que je me rappelle, c'est que moi, quand j'ai commencé à jouer au rugby, on jouait avec des ballons Campese. Et quand j'ai commencé à jouer au rugby, je savais pas qui était David Campese, mais on jouait avec des ballons Campese. C'était l'icône mondiale du rugby. On ne parlait que de lui.
Un peu fort.
Et pareil, il avait pas de loi. Après, tu revois des images. Il avait cette capacité à accélérer.
Il défendait pas trop, hein. Mais bon.
Non, il défendait pas trop.
Non, mais pas du tout même.
C'était un bel arrière, 64 essais avec.
Te passe au-dessus de l'épaule.
Oui. Non, mais voilà, c'est des joueurs pour le coup, tu vois, que j'ai pas beaucoup vu jouer, que j'ai regardé évidemment après que d'highlight. Mais je sais pas. C'est Campese, ça a toujours sonné en moi comme une star de ce sport-là. Et après, j'ai revu des images. Et après, quand tu vois son palmarès, voilà, c'est un joueur qui a. J'ai l'impression que c'est la première star vraiment mondiale du rugby que le rugby a connue. Ah, oui.
Cédric, t'es d'accord ?
Ah oui, complètement. Puis moi, je le redis, cette passe au-dessus de l'épaule, cette faculté à tenir le ballon à une main, à s'en sortir. Physique pour l'époque, parce que c'était un ailier très costaud, très physique. Alors oui, sur la défense, c'était pas le plus gros défenseur, mais il défendait intelligemment, il plaquait pas.
C'est être intelligent.
Je parle. Oh.
Il défendait avec la ligne, elle est importante, la ligne de touche.
La ligne et le centre. Voilà.
Et un troisième ligne qui traîne.
Ça, c'est l'école Guillaume. Si tu peux pas plaquer, tu plaques pas. Bah oui, quand tu ne peux pas défendre, ou surtout pour mon cas, je ne veux pas défendre, mais tu mets deux centres costauds, la ligne de touche, et t'es là sur les ballons de turnover, contre-attaque. Et David Campese, c'était ça, du fond du terrain. Il remontait les ballons. Là, je suis émerveillé par ce joueur. Je l'ai copié. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois que j'ai essayé de faire cette passe par-dessus l'épaule. Et bon, moi, elle était par terre où il y avait un avant derrière. Il y avait un truc qui ne marchait pas. Mais il a révolutionné ce poste-là.
Campese, donc, pour Julien et Cédric et Antoine Dupont pour Wilfried, dont on reparlera. En sixième, Julien, tu as mis Serge Blanco, dont on a déjà un petit peu parlé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Serge
Blanco?
Non, c'est bon.
On est bon.
Cédric, qu'est-ce que tu as choisi pour ton sixième de ce classement?
Richie Mekko. Alors, je sais très bien que vous allez le mettre certainement bien plus haut.
Pas bien plus haut, mais il est un petit peu plus haut.
Ouais, moi, je le mets. Bon, après, on ne va pas... Dis-moi, ici, on va débattre sur Richie Mako, mais l'influence dans le jeu, surtout influence sur les arbitres. Ça, c'est vraiment le premier joueur qui a réussi à transformer le rapport joueur-arbitre-arbitre-joueur. C'est pour ça qu'il est à la sixième place pour moi. Après, comme Thierry Dussautoir, balle en main, je n'ai pas de souvenir de choses extraordinaires de la part de Richie Mako.
Et moi, je l'ai mis cinquième, Richie Mako.
Et Wilfried l'a mis quatrième, donc on peut l'évoquer. Richie Mako, j'ai pas la sélection, mais il est 111 fois capitaine avec les Blacks. C'est un record.
111 fois capitaine, double champion du monde.
Trois fois meilleur joueur du monde en 2006, 2009, 2010.
Et que sixième.
Et deux fois champion du monde en 2011, 2015.
Une influence incroyable sur son sport, son équipe, sélection. Sur les arbitres.
C'est
plus haut pour toi. Richie Mako. Mais je me rends compte que même moi, et encore que j'ai un trio incroyable.
T'as mis ta copine Jolson Colby, toi, en cinquième.
Attends, quoi.
Moi, cinquième, Richie Mako. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il a démonté Morgan Parra en finale.
Mais c'est excellent.
Et oui, mais non, mais.
Mais tu aurais fait pareil à sa place.
C'est ça,
pour gagner.
Sélection. Et Cédric parlait tout à l'heure d'un joueur qui avait modifié Antoine Dupont, le rugby, son poste. Richie Mako, je trouve que c'est le même. Je trouve qu'il a révolutionné ce poste de troisième ligne. Alors évidemment, balle en main, t'as raison. Bah,
il y a jamais vu un peu moins de magie, mais on pourrait le mettre numéro un, Richie Mako.
Oui,
en fait.
Ah oui. Ah ben.
Ça pourrait être.
Moi, ce qui est perturbant chez lui, c'est autant dans d'autres sports, on peut s'émouvoir du rapport arbitre joueur joueur arbitre. Lui, il a vraiment amené quelque chose d'autre dans cette relation-là. Il a eu une influence sur les arbitres. Comment se mettre à la limite, la connaissance de la règle, la connaissance de l'arbitre. Et puis, vous le savez, l'avant-veille ou la veille des matchs, les arbitres rencontrent les équipes. Je pense que Richie Mako faisait partie de ces réunions et il demandait jusqu'où il pouvait ou peut-être aller. Et c'est le joueur qui a vraiment dit on doit travailler avec les arbitres, on doit les connaître, on doit savoir quels sont leurs gimmicks, pas gimmicks, mais vous voyez, les choses sur lesquelles ils s'arrêtent, le grattage, les rucks, les lignes de hors-jeu. Combien de fois il est parti dans le dos des arbitres, il a révolutionné cette règle-là aussi. Il était hors-jeu dans le dos des arbitres pour couper les courses, pour être au soutien.
Et puis, Cédric, c'était en 2011, Lionel Nallet et compagnie sont occupés de Richie Mako sur le terrain. Et moi, j'ai souvenir en zone mixte, l'après-match, où Lionel Nallet nous a dit « Mako, il est solide, hein, parce que ce n'est pas faute d'avoir essayé », il nous a dit. Hein. Et en plus, on a su après qu'il avait une fracture au pied, un trait de fracture au pied, qu'il avait joué la fin de Coupe du Monde comme ça. C'est un rock en plus, c'est un indestructible.
Et il est peut-être le capitaine de la plus belle équipe qui a remporté la Coupe du Monde en 2015.
Ouais, ça,
parce que les Blacks 2015, et c'en est le capitaine, c'en est le leader.
Mais c'est lui qui amène. 6, on va pas batailler.
Oui, moi, 6
6 pour Cédric, 5 pour Julien, 4 pour Wilfried, qui l'a mis juste derrière le trio que peut-être que Cédric, tu as le même. En tout cas, Wilfried et Julien avaient le même top 3.
Non, mais c'est même injuste pour Mako, parce qu'il manque un peu d'étincelles comme ça. Mais Mako, je le redis, pourrait être tout en haut du classement.
Le sixième de Wilfried, on ne l'a pas fait du coup. Tu as repris un Sud-Africain récent.
Ils ne l'ont pas pris
Non, bah, en tout cas pas Julien. Peut-être que Cédric l'a pris. Un certain monsieur Dutoit. Est-ce que tu l'as pris, Cédric,
non.
toi
non.
Donc Wilfried, tu es seul à défendre.
Il n'y a pas de joueur frisson.
Il n'y
a pas de joueur frisson, il n'y a pas d'étincelle. Mais Peter Steph Dutoit, franchement les gars, double champion du monde. Et en finale, mais souvenez-vous qu'en finale en 2023 en France, il y a Barrette au centre, j'ai mangé le prénom.
C'est Jordi.
Jordi Barrette, qui est la puissance black. Eh bien, refaites-vous le match. Peter Steph Dutoit l'a détruit en fait. L'a détruit.
Comme tu viens de détruire ton micro.
Exactement, comme je viens de manger le micro. Et c'est un indéboulonnable, un indiscutable des doubles champions du monde sud-africains avec un rôle et meilleur joueur du monde, hein, Peter Steph Dutoit. Hein.
Wilfried, moi ce qui me manque dans ce joueur, c'est le côté romantique un peu de la.
Oui, mais alors, qui a dit que le rugby c'est des doubles sautés des,
non. Bah, oui, non, mais c'est tu as raison.
C'est comme Mako, c'est injuste en fait.
Mais c'est un top 10, on est obligé de trancher. Mais ce côté jeu, ce côté athlète, bel athlète qui joue, je ne l'ai pas avec lui. Pourtant, tu as raison, parce que la finale, il fait une Coupe du Monde extraordinaire. Il arrive à éteindre ses adversaires, mais ouais. pour ça, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis.
Il est deux fois meilleur joueur du monde du Toit en 2019-2024, même si Julien me disait hier soir, il n'y avait personne en face. C'était la théorie de Julien.
Non.
Si. Ça oui, si. T'as dit ça hier.
Il faut assumer.
Il faisait très chaud hier.
Non, mais j'arrive pas à le mettre dans mon top 10 non plus. Je ne sais pas, ça me... C'est un magnifique joueur, mais je ne sais pas.
Il y a quelque chose qui nous dit... Oui, si tu regardes les stats, oui si tu regardes l'influence qu'il y a eu, mais parce qu'il manque quelque chose. Il manque un petit peps.
Dans votre équipe, avec Mako, qui prenez-vous d'autre en troisième lignel?
Du sautoir.
Ok. Ben moi, je pense que c'est
pourquoi tu mets pas. Il y a aussi Dallaglio. Hein.
Aussi.
Mais non. Attends.
Ah,
non,
si. Non,
Dallaglio, non, il pourrait.
Ouais, Peter Steph Dutoit, il en a un dans chaque jour.
Dutoit, donc, pour.
Zinzanbrook, on aurait pas pu mettre Zinzanbrook en numéro 8.
En 8.
Ouais, dites pas des joueurs dont j'ai jamais entendu parler, parce qu'après, sinon, je suis mal à l'aise.
Ne dis pas cette phrase, parce que certains auditeurs vont dire ah, mais.
On a tous des choses à apprendre. Zinzanbrook, vraiment entendu son nom. Ça, j'ai.
Le drop de Zinzanbrook en Coupe du Monde.
Coupe du Monde.
Carte finale.
Exactement.
Allez,
on avance.
On passe au top 5. Mako avait mis Julien, c'est bon, on en a parlé. Wilfried, on peut redire un mot rapidement, mais tu as mis Serge Blanco en 5e. Toi, tu l'as mis très haut, plus haut que Cédric.
Bah, je le redis, hein, star du rugby mondial, donc Serge Blanco. Après, tout est subjectif, même chacun on pourrait re-affiner notre classement selon tout ce qu'on se dit, évidemment, mais pour moi, Serge Blanco.
C'est un truc un peu marrant, c'est qu'on l'a eu sur RMC là, il y a quelques mois, quand Damien Penaud a battu son record chez Marion Bartoli. Et RMC, le foot est beaucoup mis en avant, mais c'est vrai que quand Serge Blanco était à l'antenne, on sentait qu'un peu dans la rédac, il y avait un côté oh, c'est Serge Blanco qui vient, et il a un aura aussi parce qu'il ne s'exprime pas énormément, qui fait qu'il plane un peu au-dessus du rugby.
Comme quand vous entendez Platini
ou Wilfried Templier.
Exact. C'est bien
oui,
de
et puis
dire.
Wilfried, il adore partir à Biarritz en vacances. Serge Blanco, il est très bien placé, il lui trouve des petits logements.
Monsieur le maire, alors,
qui est-ce que tu as mis en cinquième, toi, Cédric?
Alors, moi, j'ai mis Brian O'Driscoll.
D'accord.
Pourquoi Brian O'Driscoll? Parce que c'est la star irlandaise, parce que Lions britannique, parce qu'il a porté sa nation, il a apporté un jeu d'évitement au milieu du terrain. Ça, pour avoir la chance de l'avoir joué, c'était un enfer à jouer parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait faire. Il a porté l'Irlande, il a influencé le jeu d'évitement. Ce n'était pas le plus costaud, mais il avait une capacité, je le revois avec ce maillot des Lions, face à l'Afrique du Sud, où il ramasse, il prend des coups, puis il ne renonce pas, il avance, il joue encore et encore. Pour moi... par l'impact qu'il a eu sur sa nation, il est à cette position-là.
Cinquième donc, Brian O'Driscoll pour Cédric. On va rentrer dans les choses sérieuses avec cette quatrième place. Wilfried, tu avais mis Richie Mako, dont on a déjà beaucoup parlé. Julien, tu as mis Antoine Dupont, très haut, beaucoup plus haut que Cédric, notamment, qu'il a mis aux portes du top 10. On rappelle juste qu'Antoine Dupont donc, est champion de France 2019, 2021, 2023, 2024 et 2025 avec le Stade Toulousain, deux fois champion d'Europe, champion olympique. À 7 aussi.
Et on est honnête avec les gens, on a enregistré ce podcast.
Oui, peut-être 2026.
Et peut-être 2026, parce qu'on pourrait être complètement honnête avec les gens, on est aux portes de la finale.
Julien, est-ce que, en termes de rugby pur, au-delà des titres, est-ce que c'est le joueur pour toi le plus fort?
Mais pour moi, ça, il sera à la fin de sa carrière, il sera top 1. Parce que Cédric a dit quelque chose très juste tout à l'heure.
Je suis d'accord.
Il a révolutionné. Non, mais il a révolutionné son poste déjà. Aucun neuf, et pourtant j'en ai cité plein, hein, des neufs, hein, les Gregan, les Van der Verstuizen.
Il y a un neuf que tu oublies.
J'oublie qui?
Ah, moi
qui Fabien Galthié, tu voulais.
Non, qui est en tête, qui est mon numéro 1.
Ah, d'accord, on verra.
Ah, bah, non, tu me diras.
Non, mais je trouve que Antoine Dupont, il a révolutionné son poste aujourd'hui par tout ce qu'il sait faire, le jeu au pied, le jeu autour du ruck, cette capacité à accélérer. Voilà, je trouve qu'il a révolutionné son poste et que. Il va avoir des titres encore combien il va récupérer. Et pour moi, quand je vois Dupont, j'ai jamais vu un joueur faire ce que fait Dupont aujourd'hui. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Donc pour moi, c'est le numéro 1.
Un joueur si complet, n'importe où, si complet que lui.
Ouais, il s'est fait
défense, attaque, jeu au pied.
Je le revois là, cette demi-finale là où avant l'essai de Jack Willis, là, les Toulousains attaquent sur le côté avec Teddy Thomas. Les deux Parisiens viennent faire un contre-ruck. Dupont, il arrive, il s'y met, paf, il protège le ballon, Jack Willis le sort. Il sait tout faire et je trouve qu'il a révolutionné son poste. Et un joueur qui révolutionne son poste mérite d'être haut. Alors je l'ai mis 4 pour le moment, mais il finira sûrement plus haut à la fin.
Oui, parce qu'il n'a pas fini sa carrière. C'est pour ça qu'on est tellement en attente. J'espère qu'il sera champion du monde. Il va gagner d'autres titres. Il va y avoir sans doute une aventure à l'étranger, peut-être pour lui. Il va aller apporter toute sa science. Et puis, vous l'avez dit, il sait tout faire. Il a révolutionné ce poste-là. Il a changé les codes. Donc, moi je l'ai mis parce que je vous le redis, il n'a pas fini sa carrière.
On a hâte de voir en tout cas le top 1 de Cédric Emmons qui, en bon briviste, a dû mettre John Cooney, le demi-mêlé irlandais du CA Brive.
Non, il est gallois.
On verra ça tout à l'heure pour ce top 1. Donc, ça veut dire qu'en top 4, Cédric, tu as dû mettre soit John Alomou, soit Dan Carter, soit Johnny Wilkinson, j'imagine.
Johnny Wilkinson.
En 4 ?
Ouais. Okay.
Ouais. Pourquoi ?
Tu vois, même pourquoi... il hésite encore, il n'est pas sûr de lui.
Il
n'est
pas sûr de lui.
Il y a un petit blanc,
il m'a dit 4, j'ai peut-être mis trop bas.
Parce que, 4 et 3, Johnny Wilkinson et 3, Dan Carter. Je pense que Johnny Wilkinson a eu beaucoup trop de blessures, a eu des périodes à vide que Dan Carter n'a pas eu. Même si Johnny Wilkinson a inventé une façon de buter propre à lui, il a porté l'équipe d'Angleterre lors de son titre.
Il a porté Toulon,
mais dans la longévité de sa carrière, il y a quelques passages à vide que Dan Carter n'a pas eu. C'est pour ça que j'ai fait ce classement-là.
Juste sur Wilkinson, après on reviendra sur Carter parce que c'est le top 1 d'un de vous deux, Wilkinson, et vous l'aviez tous les deux mis en deuxième, Johnny Wilkinson. Moi, c'est peut-être mon préféré personnellement, mais champion du monde 2003, bien sûr, vice-champion du monde en 2007, 4 tournois de destination, 2 titres de champion d'Europe, champion de France aussi, bien sûr, avec Toulon. Je me refaisais sa Coupe du monde 2003. Il met 20 des 25 points contre l'Afrique du Sud en poule, il met 23 des 28 points en quart contre le Pays de Galles, il met les 24 points contre la France en demi et il offre le titre contre l'Australie en finale. Wilfried, est-ce que pour toi c'est la plus grande campagne individuelle d'un joueur de rugby cette Coupe du monde 2003 de Wilkinson?
Je me suis refait le commentaire là juste avant, le commentaire anglais de son drop après prolongation ou pied gauche en plus. C'est le sommet de sa carrière, le sommet du rugby anglais qui est personnifié en un seul joueur pendant plusieurs années, quoi. Donc, et ce côté, vous fermez les yeux, il y a une pénalité de Wilkinson, vous fermez les yeux, vous allez vous chercher une bière, vous savez que ça va... Et on l'a vu dans plein de petits reportages où il met des drops sur la barre, il met des drops sur le poteau, il met des drops dans la poubelle. Voilà, c'est la perfection, en fait. Alors, c'est d'un côté offensif, peut-être un peu moindre, mais dans l'influence qu'il a sur un match, sur son équipe, c'est la perfection pour moi.
Julien, sur Wilco?
Non, et puis alors c'est dur de rentrer ça parce qu'on les connaît pas tous personnellement, mais j'ai eu la chance d'aller faire la présentation de Wilkinson à Toulon avec Mourad Boudjelal, et je sais pas, il dégageait quelque chose, ce
gentillesse.
Il dégageait une gentillesse. Il arrivait, il parlait déjà français, il s'excusait toujours presque de pas parler très bien français. Il dégageait quelque chose d'incroyable. Je me rappelle que Bernard m'avait raconté l'anecdote où quand ils sont champions
Bernard
d'Europe,
Bernard Laporte.
Alors je vais pas imiter Bernard aujourd'hui, promis. Et il me raconte.
Non.
Et il me raconte qu'ils arrivent. Ils arrivent à l'aéroport et Johnny, donc ils partent tous à Marseille, à Toulon faire la fête. Et Johnny Wilkinson, il a un petit taxi qui l'attend, il rentre à la maison tranquille, il veut déranger personne.
Cédric faisait pareil.
Ouais, c'était incroyable. Mais
ma maison, tu sais pas où elle était.
La Ligue a ressorti une vidéo où je sais pas si c'est la Ligue ou Toulon, mais après leur titre de champion de France, où Wilkinson est sur le banc du vestiaire avec le bouclier. Et tous les joueurs de Toulon défilent, ils veulent tous leurs photos avec Wilkinson et le bouclier.
C'est le professionnel ultime, en fait. Je pense. Juste sur l'histoire de médias, je te laisse la parole, Cédric, là-dessus, derrière. Juste une petite anecdote. J'avais été faire Argentine-Angleterre en 2011 en Nouvelle-Zélande. Il avait fait donc, ce qu'on appelle la zone mixte pour les gens, c'est voilà, où les joueurs rencontrent les journalistes. Il avait fait, il y avait 10 mètres de journalistes anglais qui étaient alignés. Il avait fait 40 minutes avec la presse anglaise. Et j'étais avec un confrère français au bout et on attendait. Et il a passé un quart d'heure avec nous à la fin à répondre à nos questions. Je veux dire, il y a beaucoup de joueurs. Hein, il y a beaucoup de joueurs qui n'auraient pas fait ça, vous entendez Non, mais ce côté professionnel, c'est jusqu'au bout des ongles, c'est incroyable.
Et pour contredire un peu Cédric, je trouve sur la longévité, moi c'est ça qui me marque justement. C'est parce qu'on a dit que Johnny Wilkinson, il était enterré pour le rugby à Newcastle où il enchaînait les blessures. Et quand Toulon va le chercher, tout le monde dit ouais, c'est un pari de Boudjelal, ça va jamais marcher, c'est catastrophique. Mais je trouve que ce qu'il a refait Cédric à Toulon sur ces dernières années, après tant d'années, je trouve que c'est très fort.
Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce passage de cette période de Newcastle où il est perdu, où Bernard trouve les bons mots, va le relancer. C'est sa deuxième jeunesse quand il arrive à Toulon. Il est extraordinaire. Vous l'avez dit, professionnalisme professionnel jusqu'au bout des pieds, on va dire.
Ouais.
Il a influencé son jeu, mais voilà, moi c'est cette période là peut-être parce qu'il est anglais aussi et parce qu'il répond trop aux journalistes. Après c'est bien, il est dans mon classement. Hein.
Ouais, il a pas... de chance, on lui dira déjà.
Il est combien?
Quatrième chez Cédric, qui a donc mis Dan Carter en troisième, on va en reparler, qui sans doute en deuxième a mis John Alumu, on va en reparler
bien
aussi. Et en premier donc, est-ce que c'est Thomas Williams ou est-ce que c'est Rhys Webb qui est en premier chez toi? Ton domine mêlée gallois, Cédric.
Ah non, pas du tout.
Qu'est-ce que tu as choisi en numéro 1?
En numéro 1
ouais.
Gareth Edwards.
Voilà. Gareth Edwards pour Cédric, Dan Carter pour Wilfried, John Alumu pour Julien Landry. Messieurs,
bien, on a...
à vos arguments, on va commencer avec toi Cédric. Pourquoi Gareth Edwards? Tu nous as parlé beaucoup de ses titres de champion du monde, mais ton top 2 n'est pas champion du monde.
Non.
Oui, il n'est pas champion du monde à l'époque.
Non mais je veux dire, t'es deux du top 2, John Alumu et Gareth Edwards sont tous les deux pas champions du monde.
John Alumu, un joueur qui a révolutionné, puis l'histoire personnelle du garçon, montré que on pouvait être grand, costaud, rapide, jouer derrière... des images qui passent en boucle sur son déboulé le long de la ligne face à l'Angleterre, l'histoire où il se prépare, mais personne ne sait, ou lui sait déjà qu'il a un pépin physique. Je l'ai joué à 7, mais c'était un monstre. Et puis ce côté détachement, parce qu'il était à part, il commençait la musique, il venait avec des gros écouteurs, il prenait du recul... Moi, pour tout ça, pour tout ce qu'il a fait, pour son histoire, il est obligé d'être dans mon classement.
Mais Cédric, toi qui l'as joué, quand tu parles du fait qu'il était monstrueux, enfin d'un point de vue, là, quand on voit le rugby actuel, il y en a plein des joueurs monstrueux qui sont capables.
Mais
pourquoi
c'est
lui,
ça,
pourquoi lui était différent?
Pourquoi? Mais parce qu'il a influencé. Il a dit que. Rappelez-vous, vous êtes bien plus jeune que moi, à part Wilfried. On pouvait pas. Jouer derrière si on faisait plus d'un mètre 90, de suite les éducateurs te disent tu fais 1m90, tu vas jouer devant. Lui, c'est le premier à arriver en disant ben non, tu peux être grand, rapide, costaud et jouer derrière. Et il a donné la voie à plein de joueurs pour pouvoir évoluer à des postes différents. Je sais, j'arrive pas à m'expliquer ou à m'exprimer, mais se dire que c'est le joueur, ses qualités qui en font un joueur de rugby, c'est pas ses proportions. Et lui a montré qu'il pouvait le faire.
C'est pas un joueur monstrueux, hein, c'est un joueur qui joue avec des enfants en fait sur le terrain. C'est l'impression qu'il a donné.
Exactement.
On n'avait jamais, et je crois qu'on a, même s'il y a des joueurs physiques, on n'a jamais vu une telle différence.
Mais parce que tout le monde a aussi sans doute évolué sur le plan physique, non? C'est peut-être.
Il y avait quelques costauds quand même à l'époque.
Non, mais c'est pour
hein.
ça. C'est pour ça. J'ai dit qu'il a influencé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as pas un centre qui fait moins de 1m90 au milieu du terrain. Les ailiers sont de plus en plus grands. On a ouvert le potentiel. Avant, c'était 1m80. Tu joues à l'aile, tu joues derrière. Lui, il est arrivé. Il a renversé la table. Il a dit la dimension physique, non, je suis un joueur de rugby et je vais vite et je suis costaud et je le redis. Il a révolutionné cette partie-là
mais
du rugby.
Je ne suis pas sûr qu'on ait connu un joueur aussi puissant derrière. Hein. Non, enfin, je ne sais pas s'il y en a un qui vous vient à l'idée, mais je n'ai pas l'impression.
Il y avait le pésiste Saylor qui a essayé, mais qui n'a pas fait carrière.
Ouais, mais là, il passait sur tout le monde, il marchait sur les Anglais, les mecs s'accrochaient à sa jambe, il faisait 50 mètres tout seul à battre 10 défenseurs. Bah, oui. Souvenez-vous, la demi-finale à Twickenham en 99, France-Nouvelle-Zélande, il y a Abdel Benazi qui arrive de travers. Mm. Pour le démonter,
Garbajosa qui s'échappe, pardon.
Si tu nous écoutes, Xavier.
Par contre, tu vas avoir des problèmes.
Ah oui, là, c'est vrai, il va se
faire. Je lui ai déjà dit, j'en ai parlé longuement avec Xavier un jour.
Je te signale, c'est dans 2 minutes, Garba, il prend un texto.
Non, mais Abdel Benazi, qui était quand même extrêmement costaud, rebondit et part au sol, quoi. C'est même pas un monstre. Il n'y a pas de superlatif autour de lui, quoi.
Julien, tu l'as mis en. C'est ton top 1. T'es le seul, tout le monde l'a défendu, mais t'es le seul à l'avoir mis en top 1.
Alors, j'entends toujours cet argument. Il n'est pas champion du monde, mais tu vois, ça me fait penser de John Alomou, c'était comme Mike Tyson. Tu pouvais te lever la nuit pour voir un match des Blacks parce que Tyson, tu savais qu'il allait mettre un KO en une minute, tu te levais. C'est et Lomu, pareil. Alors, tu te levais le matin en te disant qu'est-ce qu'il va avoir fait, sur qui il va avoir marché, sur qui. Je me rappelle cette Coupe du Monde 95, ce quart de finale contre les Anglais où Underwood, il s'accroche, il écrase, il lui marche dessus presque.
Il passe sur Mike Catt.
Ouais, il passe sur Mike Catt. Ouais. Non, mais il était incroyable parce que tu savais qu'à part. Alors après. Il y avait un peu ce côté systématique des Blacks à toujours aller le chercher. Oui. Andrew Mertens, qui finalement toujours. On aurait pu d'ailleurs parler d'Andrew Mertens dans nos top 10, non. On l'a pas fait. Mais c'est vrai que. Non, mais Andrew, il y avait ce côté systématique où, d'ailleurs, en 99, ils perdent un peu par ça, parce qu'ils vont toujours chercher Lomu. Mais cette première mi-temps de Lomu, si tu la regardes, tu te dis, il était inarrêtable. Il y avait Philippe Saint-André en face de lui, il ne savait plus quoi faire.
Il y avait un extraterrestre avant Dupont. Hein.
C'est ça.
Lui,
mais,
hein.
Et puis,
messieurs, bon, alors, je pense que oui, mais il y a pour toute une génération. C'est un jeu aussi.
C'est un jeu de John Alomou rugby
sur PlayStation. Ouais,
exactement. Mais c'est la première star médiatique. Ah ouais. On en fait un jeu.
Il les a enterrés comme des mouches.
Il creuse comme une taupe en colère.
Moi, je peux vous dire que j'étais content d'être ailier gauche. Hein, quand il vient à Marseille, c'est Vincent Clerc qui le prend. Ouais. Je peux vous dire que je suis ravi d'être à l'aile gauche.
Quel joueur. Moi, c'est le premier joueur frisson que j'ai connu. Et voilà, pour moi, il est indéboulonnable du numéro 1.
Pas Campese, le premier joueur frisson que
j'ai
connu.
Non, mais parce que Campese, je jouais avec des ballons Campese, mais le premier joueur que j'ai vraiment vu, c'est
Lomu. Vous l'avez déjà dit pour Campese, je pense qu'il a beaucoup de frissons, ce garçon.
Oui, il frissonne très souvent, Julien. Lomu, c'est incroyable. Et Lomu, je l'avais vu débarquer à Marseille. Quand il avait fini à Marseille, j'avais été à l'aéroport l'accueillir. Oh là, le voir Lomu de près comme ça, là. Oh là, quelle image.
Wilfried a lui choisi Dan Carter. Deux Coupes du Monde, mais une où il ne joue que deux matchs. Deux top 14 avec Perpignan et Toulon, mais avec Perpignan, il ne joue que cinq matchs également. Avec Perpignan, le Racing, pardon, excuse-moi, mais avec Perpignan, il joue très peu.
Trois matchs avec Perpignan.
Record des points en carrière pour Dan Carter, trois fois meilleur joueur du monde. Pour toi, il n'y a pas de débat.
Deux fois champion du monde, trois fois meilleur joueur du monde, 1600 points marqué, 1600 points. Est-ce que vous vous rendez compte quand Wilkinson est à 1100 ou quelque chose comme ça Donc oui, avec une équipe des Blacks dominatrice. Mmh. Et pour moi, tu l'as dit, avec la meilleure équipe de l'histoire en 2015, et j'étais à cette Coupe du Monde en Angleterre, et je l'ai vu devenir son équipe championne du monde, en fait. Avec ses drops, souvenez-vous, les offloads contre la France. Il a tout fait à toutes les équipes. Et quand vous avez mis ça, deux fois champion du monde, trois fois meilleur joueur, 1600 points, c'est le joueur ultime. Il ne traverse pas le terrain comme Antoine Dupont, mais il a tout, il cochait toutes les cases d'Anne Carter.
Cédric, tu ne l'as pas mis en top 1, toi, mais pourquoi, pour toi, Carter est au-dessus de Wilkinson dans ce classement?
Parce que ce que vient de dire Wilfried Templier. Il a cette longévité, il a cette aisance, il est beau à regarder jouer. Je suis quand même assez, dans mon classement, assez attentif à le côté élégant, et je le trouve beaucoup plus élégant qu'un Wilkinson. L'influence, ses passes aux pieds, son jeu à la main, la capacité qu'il avait à faire jouer les autres. Il avait cette capacité à absorber les défenses et au dernier moment délivrer une petite passe offload, petite passe courte qui faisait que
jeu d'occupation aussi, hein, Cédric.
Un pied
incroyable,
magnifique, quoi.
Ces images de transformation avec le vent en Nouvelle-Zélande, là,
oui,
où
en Nouvelle-Zélande,
où il vise
tape,
à la droite
lui,
ou à la gauche, et ça ramène incroyable.
Lui, il se retourne, il sait qu'elle passe, et il a cette faculté. Et puis, dans mon esprit aussi, l'influence de Perpignan, quand ils sont champions, du moins, voilà, il y a tout ça.
Racing aussi,
Racing aussi, également.
Racing, pardon.
Le bouclier, Dan Carter était là.
Cédric, tu as donc mis, toi, Gareth Edwards en numéro 1. Est-ce que pour toi, c'est une honte qu'il ne figure pas dans les top 10 de Wilfried et Julien?
Oui, et c'est j'entends. Le mot spécialiste s'arrête.
Non, mais c'est vrai, ça remonte un peu
parce
plus loin.
Parce que quand on regarde Gareth Edwards, c'est une mêlée emblématique du Pays de Galles, même de l'histoire du sport, 1960-1970. Il est 53 sélections. Donc, j'ai un peu bûché, pour vous dire. Donc, je suis en train de vous
bravo,
donner...
Cédric.
Des arguments, puis surtout son style de jeu, sens tactique, rapidité d'exécution, son soutien. Et moi, il y a cet essai marquant qui est peut-être l'essai le plus beau de l'histoire du rugby avec les Barbarians britanniques, qui est dingue. Et puis l'héritage qui reste, parce que au-delà d'avoir été un joueur mondialement reconnu, il a porté la grande époque du Pays de Galles, il est devenu commentateur, il a continué à parler du rugby, à œuvrer pour le rugby, l'impact qu'il a eu au niveau mondial. Moi, j'ai toutes ces images en tête qui me disent qu'il est obligé d'être le numéro 1. Et le prochain, ça sera aussi un demi-mêlée, ça sera Antoine Dupont. Je ne me voyais pas le mettre. Donc après, quand j'ai fait les plus, les moins, j'ai essayé de voir. Et il ne rentre pas dans des cases par rapport aux autres parce qu'à son époque, Coupe du Monde, tournoi, Coupe d'Europe, tout ce qu'on peut dire, il y avait beaucoup moins. Mais l'influence qu'il a eue...
C'est pour lui, parce qu'il y a moins de compétences.
Dans sa période, dans sa période d'activité rugbystique, il est monstrueux.
Julien, Wilfried, sur Gareth Edwards?
Oui, bah alors après, c'est vrai que c'est une époque plus lointaine, hein, et on a beaucoup moins, 10 fois moins, voire plus d'images de Gareth Edwards. Mais c'est une telle star en Grande-Bretagne, une telle icône que nous, le côté français, enfin, il faut qu'on soit un peu plus. C'est vrai que je suis d'accord, Cédric, quand tu dis que c'est pas normal qu'il soit pas dans notre top 10 parce que c'est injuste pour lui. Mais alors, on avait déjà du mal à faire rentrer tout le monde. Alors voilà.
Non, mais on parlait de palmarès, et après, c'est l'injustice aussi de ce sport-là. Mais... avec mais une Coupe du Monde qui a démarré qu'en 87. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que ben, il n'y a pas de Coupe du Monde à son époque, il n'y a pas de faits marquants, il y a peu d'images, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui ont marqué aussi le rugby mondial, mais c'est vrai qu'en choisir 10, c'était compliqué. Mais voilà, c'est vrai que Gareth Edwards, c'était un bon choix de la part de Cédric.
Je vais te redire, Cédric, d'abord ton top 10. Antoine Dupont en 10e, Serge Blanco, Martin Johnson, David Campese, Macko, Brian O'Driscoll, Johnny Wilkinson, Dan Carter, John Alomou, Gareth Edwards. Est-ce que déjà tu es satisfait de ton top 10?
Non, parce qu'il y en a plein qui restent sur le bord et ça, je suis vraiment embêté avec Thierry Dussautoir.
Ouais. Surtout quand tu vas lui serrer la main la prochaine fois.
Ça... et qu'on lui renvoie
les dira, on lui dira qu'on va le croiser, Cédric.
Mais non, je suis embêté parce que c'est injuste pour certains. Peut-être que ma vision, mon histoire, mes souvenirs font que je mets un joueur plus en cinquième position qu'en quatrième position. Mais ça n'a pas été simple de le faire. C'est un très bel exercice. Mais ouais, je suis satisfait. En tous les cas, c'est le mien qui amène certainement débat. Ouais.
Et est-ce que tu peux surtout, je vais te redonner les deux top 10 de Julien et Wilfried, me dire lequel est le plus incohérent? Parce que c'est ça finalement qu'on attend de ta part. Wilfried nous a mis en 10e Philippe Sella, en 9e O'Driscoll, en 8e Colby, en 7e Dupont, 6e Dutoit, 5e Blanco, 4e Macko, 3 Lomu, 2 Wilkinson et 1 Carter.
Je crois qu'on pouvait pas faire mieux.
Et du côté de Julien, on a en 10e Thierry Dussautoir, en 9e Larkam, 8 Gregan, 7 Campese, 6 Blanco, 5 Macko, 4 Dupont, 3 Carter, 2 Wilkinson et 1 John Alomou. Lequel tu préfères entre les deux?
Bah les deux, déjà, ils mettent. Il y en a un, il y a que Larkam et Dutoit, moi je les vois pas du tout. Donc déjà.
Un mauvais point pour chacun.
Et Colby non plus, tu ne le voyais pas.
C'est là que je suis très étonné qu'ils aient encore la parole sur une antenne.
T'as un trio d'Australiens, toi, là, comme ça, qui arrive comme ça.
Il est étonné que vous ayez la parole sur RMC.
Oui, bah, attention quand même, hein, Cédric. Hein,
Non. Je n'ai pas envie de les départager, mais il n'y a pas de trou dans leur top 10. Le trio de tête me va très bien.
Est-ce que vous avez un nom que vous vouliez citer? En plus, moi, je pense à Boden Barrett, par exemple, qui est quand même lui aussi deux fois meilleur joueur du monde, champion du monde lui aussi en 2015. Je vous vois secouer la tête comme
non,
ça. Je vous soumets des noms.
Ça me fait pas kiffer.
Matt Guito, Kieran Reid, Tana Umaga. Est-ce qu'il y a des mecs que vous vouliez nommer?
Timoran, Umaga, c'est vrai que c'est vrai qu'on les a pas cités, ces joueurs.
Andrew Mertens.
Mais moi, j'adorais Matt Guito. Sa façon de balle en main, la balle à deux mains. Là, on parlait de course chaloupée, avec un petit gabarit, une créativité incroyable. Et dans cette équipe de Toulon avec Wilco, Guito, c'était voilà, c'est moi, ça c'est des joueurs qui font que j'adore ce sport, quoi.
J'ai une question: si la France devient champion du monde, Ramos, il rentre dans votre top 10?
Ah, il va commencer à avoir un sacré palmarès quand même, Ramos.
Il rentre dans le top 10 s'il est influent et bon et qu'on est champion du monde,
parce que il est influent sur son équipe, sur l'équipe de France.
C'est vrai,
sa capacité à switcher,
très bonne remarque.
Oui,
c'est
pour ça que spécialiste.
Non, mais c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a d'autres Français qui ont terminé leur carrière et que vous voyez dans ce top 10, peut-être pas loin? J'ai pensé à Michalak, à Dominici, à Galtier, à Pelouse. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça? Vous dites,
Julien, beaucoup.
Nous, ce qui est cruel, c'est qu'on n'a pas de titre mondial.
Oui, bien sûr. Galtier, dans l'influence qu'il a pu avoir sur une équipe entre 1999 et 2003.
Capitaine de l'équipe de Verdun-Laporte.
Voilà, je pense que c'était un... un magnifique demi de mêlée, voilà, qui aurait pu prétendre aussi à une place. Vous gagnez en tant que joueur. Hein.
Et Wilfried, on a un homme qui pourrait toquer rapidement, Bielbiaré, 99 essais en 132 matchs. Est-ce que s'il prend un titre de champion du monde, il va rentrer dans la discussion tout de suite aussi?
Oui, mais c'est inachevé encore. Quoi. C'est... Bielbiaré, il est arrivé à la Coupe du Monde 2023 il y a 3 ans.
En mais on a l'impression qu'il a le potentiel pour rentrer
dans le potentiel, mais c'est inachevé pour lui. Ouais.
Cédric,
il nous a mis Colby, il nous mettra bien Bielbiaré.
Tous ces...
Arrêtez, Colby, si on est connu, personne ne peut l'enlever, Cédric, top 10.
On veut pas l'enlever, on veut juste t'embêter.
Ouais, moi, je marche.
Non, Bielbiaré, s'il continue sur ces standards-là au niveau des marqueurs d'essai, sa polyvalence, sa rapidité... s'il continue, après il faut qu'il, malheureusement pour Bordeaux, du moins ils sont champions d'Europe, mais un titre national va lui manquer s'il n'arrive pas à décrocher avec Bordeaux. Et c'est sûr que s'il décroche la Coupe du Monde, il rentrera dans ce top 10. C'est une certitude.
On pourra peut-être en parler bientôt de Sacha Ngomezulu aussi, le 10 néo-zélandais, sud-africain.
C'est drôle parce qu'il s'appelle Feinberg Ngomezulu et tu as choisi le plus difficile des deux.
Ouais, c'est ça. Non, mais je trouve que dans la capacité qu'il a aussi de réinventer son poste à la main, au pied, à la course, à la défense très fort, très que complet. Si lui devient champion du monde avec les Sudaf et qu'il enchaîne, lui sera pas
durer.
Loin
il va falloir durer, qu'il dure messieurs, parce qu'on parle des mecs qui ont fait 10-12 ans de sélection nationale
et de Coupe du Monde. Et l'arrière écossais, Gavin Hastings.
Non, mais nous, ressort pas. C'est des très bons joueurs, Cédric, mais relance pas une pièce dans le truc. On arrive à la fin de ce podcast.
Zinzenbrook, tu vois, on aurait pu en parler de Zinzenbrook.
Zinzenbrook, Gavin Hastings. T'as des Anglais, tu peux en trouver plein aussi. Et Gus Scott.
Et Underwood.
Oui. Donc,
Ricky Food.
Ouais. Talonneur, le talonneur. Voilà, et ben on sait bien, on laisse l'auditeur avec toutes ses réflexions.
Non, mais on refera ce top de toute façon dans les prochaines années pour voir si certains Français ou d'autres sont rentrés. Merci beaucoup pour votre participation, messieurs. Merci Cédric surtout d'avoir élevé le débat et apporté un petit peu de.
C'est le spécialiste de ce podcast.
Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous partagera les top 10 de Julien, Cédric et Wilfried sur les réseaux sociaux. Encore une fois, n'hésitez pas à nous donner votre avis, à vous abonner au podcast Entre les Poteaux et à la semaine prochaine.
Entre les Poteaux.